Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les élus de la République, chers collègues, chers étudiants, chers amis, c'est un grand plaisir d'être dans ces beaux salons pour décerner les 4 ouvrages. Pascal disait que la moisson de cette année avait été particulièrement riche, les 4 ouvrages que le jury des prix de l'Association française de sciences économiques a choisi de primer cette année. Et nous verrons que 2 d'entre eux parlent très ouvertement et très frontalement des territoires, de la territorialisation des dépenses publiques locales, des comportements des élus locaux, et les 2 autres sont traversés par des questions qui touchent à la délocalisation ou à la reterritorialisation des activités économiques. Voilà, donc c'est un grand plaisir. Nous avons choisi de primer 2 essais et un manuel. Nous avons 3 catégories, les essais, les manuels et les poches. Un manuel et un livre de poche. Et je dois dire que dans les 3 catégories, les ouvrages de cette année sont très remarquables. Alors je vais vous les présenter au fur et à mesure. L'Association française de sciences économiques donne comme prix des livres anciens. Donc avec l'idée que si on a écrit un livre, on peut en relire de temps en temps. Et je serais ravie de présenter très rapidement les ouvrages, donner les ouvrages, les livres qui correspondent au prix et donner la parole brièvement aux récipiendaires pour une présentation de leur ouvrage. Alors je vais commencer par le livre de Pierre Vels, « L'économie désirable, sortir du monde thermofossile », qui est publié au Seuil dans la collection « La République des idées » dirigée par Pierre-Rosan Vallon et Yvon Jablonka, qui est consacré à l'urgence écologique et qui associe une critique aujourd'hui heureusement devenue assez classique de ce que vous appelez la société hyper-industrielle et la nécessité de rendre désirables les nécessaires nouveaux régimes de sobriété. Je pense que l'originalité du livre est là. La critique de la société hyper-industrielle, nous commençons à la connaître. Mais cette idée de désirabilité qu'on va retrouver aussi dans l'ouvrage de Philippe, Céline et Simon, me paraît très importante. Alors le livre est constitué, c'est un petit livre, c'est pas un poche, c'est un essai, mais c'est un petit livre qui comprend 6 chapitres. Le monde hyper-industriel, dématérialisé, en proie à une croissance démographique inédite. Là aussi, c'est un élément important de votre réflexion. L'effet Jevons, je vous laisserai l'expliquer. Mon métier est de faire de l'histoire de la pensée économique, donc je suis persuadée que vous savez tous ce que c'est que l'effet Jevons. Une économie centrée sur l'individu, la vie collective, la santé, la nécessaire relocalisation et reterritorialisation de l'industrie, la fin des métropoles, la sortie des valeurs thermofossiles, l'investissement écologique et enfin la question du rôle de l'État dans cette bifurcation écologique. Donc nous avons le jury à considérer que l'ouvrage était stimulant, se lisait bien et contribuait indéniablement à la réflexion qui nous anime tous dans ce monde, nous l'espérons, d'après-pandémie, d'après-Covid, qui va nous obliger à reconstruire un certain nombre de choses. Alors, cher Pierre, je vais vous laisser le micro. Et je vais vous donner... Alors, mon merveilleux libraire de livres anciens n'a pas le sens des emballages. Donc, voici.
Ah oui, je ferai après. Comme au Japon. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente, chers collègues, chers amis, bon, je suis particulièrement heureux et un peu surpris que vous ayez retenu ce livre parce qu'il est assez atypique quand même. Hein, dans la littérature économique, on a un peu de mal, je pense, à me mettre dans les cases habituelles. Au fond, parce que on pourrait dire que c'est de l'économie de l'environnement, mais je ne suis pas un spécialiste d'économie de l'environnement et je pense que si j'ai une petite valeur ajoutée, c'est peut-être de connecter un certain nombre de sujets qu'on a tendance à traiter de manière disjointe. Voilà. En plus, le livre est assez panoramique, comme vous l'avez évoqué dans la brève présentation que vous venez de faire. Et donc, je ne vais pas le résumer. J'ai choisi quelques points d'entrée plus précis. Je crois, mon point de départ, au fond, c'est une insatisfaction profonde devant la multiplicité et la divergence en fait, des récits qui nous sont faits aujourd'hui de cette transition et de la façon de l'attaquer. D'ailleurs, j'utilise le mot bifurcation plutôt que transition, parce que le mot transition est assez faible en réalité. On est face quand même à un enjeu qui est extraordinairement grave, existentiel même d'une certaine façon, et on a un petit Everest à monter quand même. Hein. La neutralité carbone en 2050, pour ne prendre que cet objectif intermédiaire, c'est vraiment extrêmement difficile à atteindre. Et au fond, on n'est pas d'accord sur les voies pour grimper cette grande montagne. On a un discours de l'austérité, on va dire, pour ne pas dire de la décroissance, qui est de dire, ben, les gars, il va falloir vous serrer la ceinture, on ne va pas pouvoir continuer comme ça, il va falloir réduire fortement un certain nombre de consommations. C'est un discours qui est quand même inquiétant, parce que quand on voit ce que donne la mise à l'arrêt d'une partie, finalement, on dit moins 10%, moins 15% du PIB, on voit comment ça se traduit en termes sociaux, hein, principalement, enfin, avec beaucoup d'argent public, mais malgré ça, des difficultés sociales considérables. Donc, ce n'est pas un discours qu'on peut accepter à la légère, en tout cas. L'autre discours, consiste à dire, mais rassurez-vous, braves gens, la croissance verte et même le capitalisme vert, une fois qu'on aura mis les bonnes incitations, les bonnes taxations, etc., ça va s'arranger, on s'en est toujours sorti, et puis l'innovation technologique par-dessus tout ça. Bon, moi, je ne crois pas à ce discours-là non plus, parce que je pense qu'il est lénifiant. La croissance verte, on va évidemment recréer des emplois dans un certain nombre de nouveaux secteurs, mais on va aussi en détruire pas mal. Si je prends l'exemple de l'automobile, le passage l'électrification de l'automobile, ça va se traduire inévitablement par des pertes sèches d'emplois tout à fait considérables. Les Allemands, d'ailleurs, sont en train de s'inquiéter beaucoup là-dessus. On va faire des usines de batteries. J'ai vu qu'heureusement, on en a maintenant quelques-unes en France, dont une qui vient d'être décidée récemment. Elles sont très, très automatisées. Alors, au fond, en 2 minutes, puisqu'il me reste 2 minutes, mon sujet de base, c'est de dire qu'il faut déconfiner un peu le sujet de l'écologie. Il faut considérer qu'aujourd'hui, on a tendance à dire c'est un chapitre, et d'ailleurs assez technique, avec des discussions techniques compliquées, des politiques publiques de manière générale. Ça devrait être, au fond, quelque chose de beaucoup plus global. Et ma question, puisque mon sujet de base, c'est la sobriété, c'est comment est-ce qu'on peut trouver une économie qui soit globalement et structurellement sobre. Et ça implique pas seulement de verdir par compartiment nos différents secteurs existants. Je parlais de la mobilité, je parlais de l'habitat, etc. Bien sûr, il faut faire ça, mais il faut être capable de le replacer dans un discours plus global, dans une vision plus globale, et une vision qui soit, si possible, positive, qui soit de l'ordre de la promesse et pas seulement de la menace. Alors, je vous laisse découvrir le livre, mais j'ai un candidat pour ça, qui est de dire, qui se raccorde au fond aux trajectoires économiques en cours, qui est le développement de ce que j'appelle l'économie humano-centrée. Notre ami Robert Boyer parle de l'économie anthropogénique, enfin c'est un peu la même idée, c'est-à-dire l'ensemble de tous ces secteurs, la santé en premier lieu, l'éducation, je mets aussi la mobilité là-dedans, les conditions d'existence, tout ce qui accroît la capacité d'action des individus et améliore leurs conditions d'existence, qui sont des secteurs qui sont quand même structurellement plus sobres, en ce sens qu'ils créent de la valeur essentiellement par les services et la mise en relation des gens, et qui sont aussi une façon aussi d'intégrer la nécessaire et difficile, je répète, transition ou bifurcation de l'écologie dans une vision plus globale d'un devenir économique possible et désirable. Et j'ajoute que la question des territoires est évidemment tout à fait centrale par rapport à ça.
Je suis confuse d'être obligée de tenir l'heure, mais la montre. Alors, deuxième essai, Philippe Aguillon, Céline Antonin, Simon Dunel. Le pouvoir de la destruction créatrice, innovation, croissance et avenir du capitalisme, publié chez Odile Jacob. Je vais faire la même chose, je veux bien récupérer mes livres à la fin. On les fait circuler. Alors, on a là un livre qui se situe dans la lignée des recherches précédentes de Philippe Aguillon, qui, vous le savez tous, est professeur au Collège de France et qui travaille en termes de thèmes de recherche avec ses étudiants sur la question de la destruction créatrice. Je vais revenir dessus après, depuis quelques années. Et là, il y a un ouvrage très original fait avec deux de ses étudiants brillants, Simon et Céline, qui analyse la crise d'identité du capitalisme révélée par la pandémie actuelle, mais qui évidemment préexistait, en termes de dysfonctionnement des systèmes de protection sociale et de santé, de montée des inégalités, de concentration des rentes, de précarisation du travail, de détérioration de l'environnement, et qui pose la question, vous posiez, Pierre Vels, la question de l'acceptabilité de régimes de sobriété, là qui pose la question d'une nouvelle régulation des économies de marché à partir de ce qu'ils appellent un nouveau paradigme, hérité des travaux de Joseph Alois Schumpeter, la destruction créatrice. Alors, la destruction créatrice est dans le livre analysée comme un levier de croissance dans le monde futur, alors qu'on le sait, chez Schumpeter, elle constituait à terme un obstacle majeur à l'avenir d'un capitalisme qui allait s'enfoncer dans la bureaucratie et la recherche de rente avec la fin de l'entrepreneur. Alors, l'ouvrage commence par exposer ce nouveau paradigme. Il est extrêmement clair. Ce paradigme est fait de plusieurs éléments, donc c'est une présentation liminaire. Comment mesurer la richesse? Qu'est-ce que la destruction créatrice? En quoi la destruction créatrice est centrée sur l'innovation, la diffusion du savoir, les incitations, la protection des droits de propriété et, ce qui fait le deuxième volet du paradigme, la destruction créatrice. Donc s'ensuit dans l'ouvrage une analyse historique de la croissance en Europe et aux États-Unis et une analyse des choix de politique économique. L'ouvrage se constitue autour de grands thèmes, il est très lisible, il est très clair. L'analyse du décollage, donc du décollage au sens de Rostow, du taking off. La question des vagues technologiques, je mets des guillemets à vagues parce que la notion de vague technologique est érigée en concept dans l'ouvrage, les relations de causalité entre innovation et croissance, innovation et inégalité, innovation et chômage, l'énigme de la stagnation séculaire, le piège du revenu intermédiaire, avec l'exemple de l'Argentine qui est particulièrement développé, le passage d'une économie industrielle à une économie de services, l'innovation verte, la recherche de développement, le financement de l'innovation, la question de la mondialisation, à la fois des marchandises et des êtres humains, le rôle des États et des instruments, la construction du contrôle des exécutifs et la question de demain, disent-ils en conclusion, l'avenir du capitalisme après la crise actuelle. Donc nous avons trouvé que l'ouvrage pouvait presque être considéré comme un manuel, on a hésité entre les deux catégories. Il s'agit d'un essai parce qu'il est extrêmement stimulant sur l'idée de l'innovation, de la destruction créatrice comme moteur d'un nouveau capitalisme avec des points de désaccord tout à fait passionnants à explorer. Je ne sais pas, Catherine, si ce sera attaqué dans les tables rondes sur, par exemple, le statut des robots qui, chez Pierre Vels, vient d'être décrit comme un facteur de chômage et dans l'ouvrage de Philippe Céline et Simon est décrit comme un moteur de la croissance de demain. Je ne fais que mettre de l'huile sur le feu pour le débat de tout à l'heure. Voilà, alors, nous avons trois ouvrages que je vais vous demander de prendre. Alors, puisque les ouvrages ne sont pas dits, moi je vais les ouvrir et je vais annoncer. Alors, pour Philippe, pour Simon d'abord, qui, d'après ce que je viens de comprendre, n'a pas encore soutenu sa thèse, les études économiques, politiques et littéraires d'Alexis de Tocqueville. C'est jamais mauvais de relire un peu de Tocqueville. Vous venez récupérer ça, cher Simon. Céline, dont on m'a dit qu'elle s'intéressait aux questions de la monnaie, aura le discours sur le crédit de Jacques Rueff. Jacques Rueff n'est pas ma tasse de thé, mais ça vient de la bibliothèque de Lutfalla, qui était un grand historien de la pensée économique. Et Philippe, que de temps en temps j'ai envie de tirer légèrement sur la gauche, aura des études sur les réformateurs ou socialistes modernes, Saint-Simon Fourier Owen, d'un des très grands auteurs du XIXe siècle, qui est Louis Rebaud.
Voilà, on est très émus. Merci beaucoup, Annie. Merci au jury de nous avoir remis ce prix. Et merci beaucoup pour ce choix de livre. Tout à fait. C'est drôle parce qu'il y en a qui me considèrent des fois trop à gauche. C'est assez drôle. Mais, voilà. Je dois. Là où j'essaie de tirer, c'est souvent vers la gauche. Le président le sait très bien. Voilà. Donc en fait, c'était donc une formidable aventure de travailler avec Céline et Simon sur ce projet. La destruction créatrice, comme vous le disiez très bien, Annie. Donc c'est une idée qui a été mise en avant par Schumpeter. C'est le processus par lequel de nouvelles innovations rendent les technologies existantes obsolètes. Le nouveau remplace l'ancien. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que chez Schumpeter, c'était un peu une idée comme ça. Et depuis 34 ans, ce qu'on a fait avec Peter Howitt, et après, il y a eu toute une vague, c'est-à-dire de bâtir un nouveau paradigme de croissance autour de cette idée. L'idée étant que la croissance de long terme est tirée par l'innovation. L'innovation est motivée par des activités entrepreneuriales qui sont motivées par des rentes d'innovation. C'est les entrepreneurs veulent innover parce qu'ils en retirent des rentes. Et la troisième idée, c'est la destruction créatrice. Les nouvelles innovations rendent les technologies existantes obsolètes. Et donc, en fait, ce paradigme est devenu, en fait, de là où il était, c'était une curiosité. Moi, quand j'étudiais l'économie, Schumpeter, c'était une curiosité, c'était d'histoire économique, en fait. C'est l'histoire de la pensée économique. Mais ce n'était pas mainstream. Et maintenant, c'est devenu dominant en économie de la croissance parce que ce paradigme, eh bien, il est extraordinaire parce qu'il se confronte aux données. Et donc, il y a toute une série de données, notamment microéconomiques, d'entreprises, d'individus qui permettent de tester. On peut dire beaucoup de choses sur la taille des firmes, sur la réallocation des firmes, sur la croissance des firmes et comment est vraiment les fondements micro de la macroéconomie en croissance. Et donc, si vous voulez, ça est devenu maintenant dominant. Alors, au cœur de ce processus de croissance tiré par la destruction créatrice, il y a une contradiction. D'un côté, on veut donner des rentes, il faut des rentes d'innovation pour motiver l'innovation, mais les innovateurs sont tentés d'utiliser ces rentes pour empêcher de nouveaux innovateurs, parce qu'ils ne veulent pas être remplacés. Et le problème de la réglementation du capitalisme, la régulation du capitalisme, c'est avant tout de gérer cette contradiction-là. Et elle est au cœur de tout. Et ce qu'on explique dans le livre, c'est que cette contradiction, elle permet de... À travers cette contradiction, on peut faire trois choses. Un, on peut élucider les grandes énigmes de la croissance. Deux, on peut remettre en cause un certain nombre d'idées reçues de politique économique. Trois, on peut repenser le capitalisme. Alors, je mentionne les trois l'un après l'autre. Les grandes énigmes, le décollage, comme vous expliquez très bien. Pourquoi c'est en 1820, en Angleterre, puis en France? Je veux dire, la croissance, donc c'est la croissance durable, c'est un phénomène très récent, c'est 200 ans, mais l'histoire de l'humanité est bien plus longue. Pourquoi ça ne se passe pas en Chine, au Moyen-Âge, etc.? Et on explique dans le livre, c'est vraiment ça, c'est qu'en Chine, les empereurs avaient peur que les innovateurs leur prennent le pouvoir. Donc, ils faisaient barrage. Mais pourquoi ça a pu se passer en Europe? Alors d'abord, en Europe, il y a eu plusieurs choses. C'est exactement le paradigme schumpeterien. D'abord, il y avait l'openness. On pouvait éviter le mythe de Sisyphe et construire sur les autres parce qu'il y avait eu l'encyclopédie, il y avait l'imprimerie, il y avait les universités. Donc c'est la première chose. Il fallait ces institutions-là. La deuxième chose, c'est qu'il y avait eu la Glorious Revolution en Angleterre et la Révolution française qui ont permis la protection des droits de propriété. Donc on a pu avoir des brevets. Et troisièmement, pourquoi la destruction créatrice était possible? Parce qu'en Chine, on pouvait toujours persécuter un inventeur, mais en France, si en Europe, dans un pays, on le persécutait, il allait trouver refuge dans le pays voisin, et le pays voisin faisait concurrence, donc on ne pouvait plus. Et la concurrence des pays européens a permis, justement, à la destruction créatrice de continuer. Donc le décollage, on regarde d'autres énigmes, la stagnation séculaire, pourquoi il y a eu un déclin de la croissance aux États-Unis depuis le début des années 2000, alors qu'ils ont la révolution d'éthique et de l'intelligence artificielle, pour les inégalités, pourquoi, il me reste deux minutes, bon,
D'accord. Donc voilà, ça c'est les énigmes de la croissance. Donc on voit qu'à chaque fois le prisme de la contradiction que dont je parlais permet de faire ça. La deuxième chose, c'est remettre en cause les idées reçues. Taxer les robots, on se dit, c'est, eh ben, les robots vont remplacer l'emploi, pourquoi il faut taxer les... Et nous on dit, c'est pas une bonne idée, parce qu'en fait on montre, dans des travaux qu'on voit en commun, et commun aussi avec Xavier Jaravel, qui a eu le prix du jeune économiste, que quand on automatise, eh bien on crée des emplois. Parce que c'est vrai qu'il y a une substitution des hommes par les machines, mais les firmes qui automatisent deviennent plus productives, donc plus compétitives, donc elles peuvent exporter plus, elles ont une taille de marché plus grande, et donc il y a une demande plus grande de leurs produits, donc une demande plus grande de ces entreprises pour de l'emploi supplémentaire. Et donc on bat en brèche l'idée de taxer les robots. Si tu taxes les robots, tu empêches ces entreprises d'innover, d'être compétitives, et donc tu te tires une balle dans le pied. De la même manière, on remet en cause l'idée que pour reconquérir la chaîne de valeur, il faut faire des guerres commerciales. Non, c'est par l'innovation. Les Allemands, ils y sont arrivés en innovant et en investissant. Et nous, on doit réindustrialiser par l'innovation. Ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. Ça devrait être un des grands thèmes, à mon avis, du prochain quinquennat. Et la décroissance, il y a toujours cette idée que c'est par la décroissance que l'on résout le problème climatique. Non, ce n'est pas vrai. Il y a eu l'expérience naturelle du Covid. Le PIB a baissé de 30% avec le premier confinement. Et ça a été juste, les émissions de CO2 n'ont baissé que de 8%. Donc, vous voyez, et la troisième chose, donc on remet en cause un certain nombre d'idées reçues, on dit que c'est l'innovation verte, et on montre quels sont les leviers de l'innovation verte. Alors la dernière chose, c'est repenser le capitalisme, une minute, c'est que en fait la Covid a révélé des faiblesses différentes du capitalisme dans différents pays. Aux États-Unis, ça a montré la faillite du modèle social américain. C'est pour ça que Biden est obligé de donner. Il a raison, Biden. Beaucoup de gens ont critiqué Biden, Larry Summers. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec Larry Summers. Je pense que Biden a eu raison de faire ce qu'il a fait dans le contexte américain. Parce qu'il fallait soulager les gens. Ils n'ont pas eu un plan comme chez nous. Mais nous, en Europe, et en France en particulier, le gros problème, c'est l'écosystème d'innovation. C'est quand même fou que dans le pays... L'ARN messager, c'est parti de l'Institut Pasteur. C'est quand même fou que nous n'ayons pas été capables de faire des vaccins basés sur l'ARN messager. Donc on doit repenser notre écosystème d'innovation et on va réindustrialiser par l'innovation et en repensant notre écosystème d'innovation. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça que fait le... Et juste je termine sur la contradiction de Schumpeter. C'est que Schumpeter était pessimiste parce qu'il se disait les premiers innovateurs vont devenir des grands conglomérats qui vont faire barrage aux nouvelles innovations, et donc ça va stopper le capitalisme. Qu'est-ce qui fait qu'on peut conjurer le pessimisme de Schumpeter? C'est en fait le triangle entre entreprise, État et société civile. Et c'est ce triangle-là qui permet de conjurer le pessimisme de Schumpeter. Je suis désolé, j'arrête. Voilà, c'était l'histoire du micro. On montre comment, à travers ce triangle, on peut, et on a besoin de la société civile. On s'en est vu avec les gilets jaunes, on a voulu ignorer trop la société civile, elle nous est revenue dessus. On a besoin du triangle firme, entreprise, celle qui innove, l'État qui régule, et la société civile. Et les trois sont très importants. Voilà, donc je voulais juste, c'est un peu les thèmes du livre. C'est un peu long, je suis désolée, chère Annie. Voilà.
Tu es long mais tellement sautillant que c'est délicieux. Alors, je passe maintenant aux deux autres ouvrages. Je profite de la présence du président de l'Assemblée nationale pour vraiment suggérer une commande d'au moins 577 exemplaires de chacun, de manière à ce qu'ils figurent sur le bureau de chacun des parlementaires élus, et si possible un peu plus pour les collaborateurs, les assistants parlementaires, etc. Les deux ouvrages sont formidablement utiles, et c'est pour ça qu'on les a retenus. Donc, je commence dans la catégorie manuelle, par l'ouvrage de Benoît Lemot et Sonia Paty, « Économie publique locale », sorti chez Economica dans la collection Corpus Économie dirigée par Hubert Kempf. Alors il y a là le premier manuel français sur ce thème, depuis l'ouvrage de Pierre-Henri Déric et Guy Gilbert, qui était aussi publié chez Economica, mais en 88, nous n'avions aucun manuel en français accessible, celui-ci est remarquable de clarté et de densité et de synthèse. D'autant plus que le domaine s'était beaucoup développé dans plusieurs directions que le manuel de Sonia et Benoît présente de manière très claire, très structurée en 6 chapitres. Les fondements analytiques et les faits stylisés, on verra que les fondements analytiques ont beaucoup évolué depuis 30 ans et les faits stylisés, c'est-à-dire les données, ont largement évolué, notamment sous la pression des réformes de l'administration des territoires en France. Le développement de l'économie publique appliquée à l'échelon local, il y a une remarquable utilisation de leçons des domaines de l'économie publique, de la science politique, des théories, de différents domaines de sous-disciplines en économie appliquée ça. la question des dotations, la question des enjeux de la coopération locale, pardon, et des dotations de l'État, les modèles de démocratie et l'analyse des contraintes électorales, l'analyse des comportements des élus locaux face aux groupes d'intérêt, aux lobbies, et les stratégies de concurrence fiscale horizontale et verticale entre les collectivités territoriales. Donc l'ouvrage sera utile aux chercheurs, aux étudiants, c'est un manuel et donc il est accessible, par sa précision et sa finesse théorique, il sera utile pour les chercheurs et il peut être lu par des étudiants de première ou deuxième année, mais on va demander ça aux étudiants qui sont dans la salle et qui l'auront feuilleté. Voilà, donc l'idée quand même est de relancer aujourd'hui, après cette pandémie, c'est pour ça que nous l'avons choisi, le champ de l'économie publique locale et également celui des nouveaux outils statistiques qui sont appliqués à l'évaluation des politiques publiques au niveau local et des nouvelles bases de données nées de l'évolution des réformes organisationnelles du secteur public local. On a là un concentré de ce que disait Pascal dans son introduction à cette matinée, qui est le rôle des professeurs d'économie, des académiques, des chercheurs, comme experts, capables d'éclairer de manière simple, analytique, creusée, le débat public sur ces questions. Alors, cadeau, nous avons là deux, moi je m'intéresse à l'histoire de la pensée économique, donc je me suis dit qu'est-ce qui peut aller avec l'économie publique locale. Alors, il y a évidemment Vauban, la dîme royale, parce que tout commence avec Vauban. Et puis, il y a eu des débats absolument épatants au XIXe siècle, dont un fermier général sous le Consulat et l'Empire, l'octroi de Lyon par André Cottez, donne une présentation tout à fait intéressante. Alors, l'ouvrage n'est pas en très bon état, mais il n'est pas coupé, et à mon avis, vous en avez, cher Benoît, pour au moins une semaine de lecture. Ça, c'est les papiers du... On fera tout ça. Je fais circuler votre ouvrage.
Merci, Annie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, chers étudiants, eh bien, nous remercions Benoît et moi, Annie Cotte, le président de l'AFSE, nous avoir attribué ce prix pour un manuel d'économie à destination des étudiants. Nous sommes également très redevables aux éditions Economica, à Jean Pavleski et à Hubert Kempf qui dirigent la collection pour leur confiance pendant toute la durée de ce projet qui a duré 5 ans quand même. Donc voilà, on est tous les deux très, très heureux d'obtenir ce prix. Alors pourquoi un tel manuel ? Eh bien tout d'abord, comme tu l'as dit Annie, l'un des derniers ouvrages qui traite du rôle primordial des collectivités territoriales dans l'économie, c'était l'ouvrage de nos maîtres à nous deux, Pierre-Henri Duric et Guy Gilbert, et qui datait de la fin des années 80, c'est-à-dire quelques années après les premières lois de décentralisation. Or, eh bien, vous le savez, le secteur public local, il a été marqué par de nombreuses transformations ces 30 dernières années, la crise économique, les plans d'austérité, les réformes territoriales telles que l'intercommunalité. Eh bien, toutes ces évolutions, toutes ces transformations ont conduit les acteurs locaux à devoir faire face à de nouveaux enjeux et à de nouvelles contraintes. Donc, cet ouvrage, il a vraiment pour ambition d'éclairer nos lecteurs, les étudiants, citoyens comme vous et moi, mais également peut-être futurs acteurs publics locaux. Eh bien, il a pour ambition de les éclairer sur le rôle complexe des collectivités territoriales dans l'économie et sur les déterminants et les effets des choix des collectivités territoriales en matière de fiscalité et en matière de dépenses publiques. Alors, que peuvent apporter les économistes, à la réflexion sur le rôle du secteur public local ? Eh bien, beaucoup de choses, et je pense que le thème de la matinale en témoigne. En complément des autres disciplines, eh bien, je pense que les économistes peuvent répondre à de nombreuses questions. Alors, de mon point de vue, il y a vraiment deux nouveautés ces 10 dernières années, on va dire. La première nouveauté, c'est la mise à disposition de bases de données sur longue période à l'échelle locale, de données dites spatialisées. Et donc ça, c'est vraiment une nouveauté. Il y a quelques années, il était fort difficile de travailler en économie publique locale car nous n'avions pas accès à de longues bases de données. Donc vraiment, travailler sur des séries longues, aujourd'hui, c'est vraiment très important pour nous. Et puis la deuxième nouveauté, je dirais, c'est le développement des techniques d'évaluation des politiques publiques qui permettent aux chercheurs que nous sommes de mieux comprendre les effets des réformes territoriales, les effets des réformes institutionnelles, les effets des réformes fiscales sur l'économie, et cela à l'échelle très très fine de la commune. Alors l'usage de l'expérimentation, de la quasi-expérimentation, hein, comme nous le faisons par exemple dans mon laboratoire au GAT Lyon-Saint-Étienne, ça nous permet d'évaluer une politique publique en isolant ses effets des autres facteurs possibles. Donc les économistes, je dirais, aujourd'hui disposent des outils statistiques robustes pour répondre à des questions importantes, parmi lesquelles, quels sont les effets de la suppression des impôts locaux sur l'économie, quels sont les effets de la suppression de la taxe professionnelle, de la taxe d'habitation sur les autres impôts locaux, quels sont les effets de la suppression de ces impôts sur les dépenses publiques, ou encore quels sont les effets de la crise sanitaire sur le budget des collectivités territoriales à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc ce sont autant de questions auxquelles on va évidemment s'intéresser. Donc il nous semble que ces travaux peuvent ensuite mieux guider en toute humilité les acteurs publics locaux et nationaux, et les guider dans la conduite de leur politique publique. Donc à nouveau, je vous remercie. Je veux dire également tout le plaisir que j'ai eu de travailler avec Benoît, et je lui laisse la parole. Merci beaucoup.
Merci Sonia. Alors pour compléter les propos de Sonia Paty, il faut souligner qu'une des spécificités des collectivités territoriales est que leur grand nombre facilite les études statistiques. On fait face à des entités qui évoluent dans un cadre institutionnel comparable, et cela offre aux économistes un terrain d'analyse extrêmement intéressant. Alors je vais vous donner un exemple simple. On observe en France, mais aussi à l'étranger, des disparités de dépenses entre les collectivités territoriales, avec des collectivités qui dépensent beaucoup par habitant, puis d'autres moins. Et une des questions posées dans notre discipline est l'origine de ces disparités. Donc pour répondre à cette question, il est d'usage en économie publique locale de vérifier si l'offre de politique publique correspond à une demande de la part de la population, à des besoins sur les territoires concernés. Et donc pour ce faire, on va comparer les collectivités entre elles. Et encore une fois, cette comparaison, elle est simplifiée, elle est rendue plus aisée parce que ces entités évoluent dans un contexte comparable. Nous ne sommes pas en train de comparer des pays, par exemple. Et donc, on va regarder si, finalement, les niveaux de dépenses sont fonction des caractéristiques socio-économiques des territoires. Ce type de test a été mis en place en France, par exemple, dans mon laboratoire, le CREM, à l'Université de Rennes 1, mais également à l'étranger. Et en général, ces tests, en partie, corroborent l'hypothèse selon laquelle ce sont les citoyens qui orientent les choix de politique publique. Et ces tests montrent également l'importance des élus locaux qui, de par la contrainte électorale, sont amenés à répondre aux besoins des populations. Et donc, pour conclure, dans notre ouvrage, nous recensons toute cette littérature qui est finalement très riche. Nous en avons évoqué quelques points avec Sonia. Elle est très riche, mais elle est également complexe. Pourquoi ? Parce que finalement, vous avez de multiples acteurs qui interagissent ensemble. Les citoyens avec les élus, les collectivités entre elles. Les compétences exercées sont multiples et il y a des enjeux, comme on le sait, très importants, extrêmement importants en matière d'inégalité territoriale. Et donc tous ces points sont recensés dans notre ouvrage. Alors pour finir, je me joins à Sonia et nous remercions l'AFSE, bien évidemment, pour ce prix qui récompense un ouvrage effectivement en économie publique locale, mais qui a aussi l'avantage de mettre la lumière sur une discipline qui est en constante évolution de par la richesse des données. Donc, merci beaucoup.
Alors, last but not least, dans la collection Poche, on avait cette année un petit bijou de synthèse théorique, historique, analytique, d'expertise sur une question très centrale et très débattue depuis un certain temps, le salaire minimum et l'emploi de Jérôme Gautier, publié dans la collection dirigée par Yann Algan, Pierre Cahuc et André Zilberberg, Sécuriser l'emploi, aux presses de Sciences Po. Alors, c'est un ouvrage court, c'est un poche, 130 pages, qui est remarquablement construit autour des discussions ô combien conflictuelles, passionnées, politiques, idéologiques, qui agitent la communauté des économistes en Europe, aux États-Unis, dans le continent nord-américain, dans le Commonwealth, mais aussi en Europe, mais aussi des politiques, mais aussi des experts, la question du salaire minimum qui par son importance et la qualité des échanges est du même ordre que le débat absolument passionnant sur la question de l'impôt progressif sur le revenu qui a beaucoup agité les parlements depuis la fin du XIXe siècle. Donc, la question de l'analyse de la relation entre l'adoption légale d'un salaire minimum et ses effets négatifs, nuls ou positifs sur l'emploi mérite aussi, Monsieur le Président, que vous fassiez une commande de 577 ouvrages pour le déposer. Je ne parle pas du Sénat, ça ne relève pas de votre compétence. Alors, l'ouvrage se dévore, il se lit vite. Il réussit à présenter tout à la fois cette histoire haletante des controverses qui ont entouré, depuis la fin du 19e, l'idée d'une légalisation en Europe, aux États-Unis, dans les grands pays, dans les pays industrialisés du Commonwealth, d'une légalisation d'un seuil minimal de salaire et la détermination de son seuil de départ, évidemment, marié à l'histoire de sa mise en place aux États-Unis depuis 1938, en France depuis 1950. Les plus jeunes d'entre vous se rappelleront la mise en place du SMIG, messieurs et madame les étudiants, au Royaume-Uni dès 1909, dans certaines branches, et en Allemagne, beaucoup plus récemment, puisqu'il s'agit là de la fin des années 90. L'ouvrage est structuré en quatre chapitres. Un, les débats autour de la relation entre salaire minimum, gain de productivité et niveau d'emploi des entreprises. Deux, une analyse des effets différents du salaire minimum sur les différentes catégories, enfin sur certaines différentes catégories de main-d'œuvre, les femmes, les jeunes, les immigrés. Trois, un passage à une analyse macroéconomique des effets du salaire minimum sur la conjoncture, l'emploi, la croissance. Et quatre, une comparaison appliquée, très synthétique, mais appuyée sur un vrai travail statistique économétrique, des effets du salaire minimum. Des effets du salaire minimum sur la croissance autour de quatre expériences nationales, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Donc l'ouvrage se conclut sur une réflexion sur le renouveau de la recherche théorique et empirique sur les imperfections du marché et ses conséquences sur l'analyse des relations entre salaire minimum et emploi, et donc sur les politiques de salaire minimum qu'il convient d'éclairer pour le XXIe siècle et l'après-crise sanitaire. Merci Jérôme pour ce petit ouvrage. Alors là, tu ne t'étonneras pas, quand même, un classique, Louis Blanc, Organisation du travail. En format de poche.
Merci. Je vais sortir mon petit papier. Donc. Monsieur le Président de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues et chers étudiants, et c'est aussi beaucoup aux étudiants que je vais parler peut-être. C'est évidemment un grand honneur et un grand plaisir de recevoir ce prix. Je voudrais remercier la chaire, tu l'as cité, la chaire de sécurisation des parcours professionnels, qui publie toute une série d'ouvrages dans cette même collection qui auraient mérité presque autant que le mien ce prix et qui sont vraiment des outils pédagogiques très, très utiles pour les étudiants. Alors, c'est vrai que le titre de l'ouvrage sonne un peu comme un sujet, je dirais, on ne peut plus éculer du bac ou des examens ou des concours pour les étudiants. C'est vrai que le salaire minimum et l'emploi, rien que l'énoncé peut susciter des bâillements et un ennui soporifique. Mais en fait, je crois qu'il faut le redire, c'est un sujet tout à fait passionnant. Et d'abord, qu'il y a une dimension historique, sociale et sociétale très forte. Et comme aujourd'hui, on est à l'Assemblée nationale, je ne peux pas ne pas évoquer justement les grands débats qu'il y a eu dans l'hémicycle à quelques mètres d'ici. Et notamment, tu citais 1950, mais il y a aussi une grande étape qui est 1970, hein, sous le gouvernement de Jacques Chambadelmas, qui a été un des plus éminents locataires de ces lieux, hein, de l'hôtel de Lassay, où le terme qui a été utilisé hein, lors des débats, pour spécifier quel était l'objectif de la loi, c'était le terme de salaire de civilisation. Et ce terme, il était porté par le rapporteur de la loi de l'époque, qui était du parti gaulliste, donc un parti dit de droite, puisqu'on parlait tout à l'heure des catégories de droite et de gauche. Et ce terme montre toutes les attentes aussi, et tout l'espoir qu'il y avait dans ce salaire minimum et son rôle fondamental. Et juste rappeler aussi que cette loi de 1970, c'était une conséquence directe de mai 68, puisque lors des accords de Grenoble, ils ont été cités, je crois, tout à l'heure. La première revendication des syndicats, c'était justement une forte augmentation du salaire minimum. Alors, évidemment, l'ouvrage porte plutôt sur les débats économiques. Les économistes ont été passionnés par la question dès la fin du 19e siècle, tu le rappelais. Et je crois que ce qui rend aussi ces débats passionnants, c'est qu'ils montrent avoir un tout petit peu du pire, mais surtout beaucoup du meilleur de notre science économique, en fait. Alors pourquoi un tout petit peu du pire ? Parce que les économistes, alors pas en France évidemment, mais dans tous les pays étrangers, les économistes parfois n'échappent pas à leurs a priori politiques et idéologiques sur cette question. Et alors il y a une étude économétrique que j'aime beaucoup, qui a été menée par un qui s'appelle David O'Neill, qui a regardé, en fait, qui a analysé les pétitions qui ont été faites aux États-Unis en 2008, en faveur ou contre l'augmentation du salaire minimum. Donc vous aviez des centaines d'économistes qui se sont répartis sur deux pétitions, en faveur ou contre, avec d'éminents prix Nobel des deux côtés. Et il montre dans son étude économétrique que, outre l'âge, le sous-domaine de la discipline, etc., ce qui joue aussi dans l'opinion, c'est la distance géographique, mesurée en termes de miles, entre l'institution d'appartenance de l'économiste et la ville de Chicago, qui est évidemment l'épicentre de la révolution néolibérale. Et donc, plus vous êtes éloigné de Chicago, plus vous êtes en faveur d'une augmentation du salaire minimum. Bon. Mais plus sérieusement, ça, c'est pour le côté un peu anecdotique, un peu du pire de la discipline. Mais le meilleur, c'est que ces débats, en fait, ont été l'occasion, depuis plus de 100 ans, de développement théorique et de développement empirique assez extraordinaire. Ils ont été un peu le laboratoire, je dirais, aussi, du développement de la science économique comme une science appliquée, avec l'élaboration de modèles de plus en plus complexes et de plus en plus fins, et d'innovation aussi dans les outils empiriques qui ont essayé de tester justement ces différents modèles. Et notamment la révolution de la crédibilité, ce qu'on appelle la révolution de la crédibilité des années 90, elle doit beaucoup au débat sur le salaire minimum. Et juste pour conclure, pour ne pas être très long, je crois que le fait que ce débat, tu l'as dit, Annie, reste très, très discuté, de façon encore passionnelle. Aux États-Unis, il faut voir que ce sont des batailles de peluchons redoutables chez nos collègues académiques américains. Ce n'est pas un signe d'échec de la discipline. Et ce n'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Et il faut peut-être passer à un niveau que tu aimes bien, c'est le niveau un peu épistémologique, c'est-à-dire quelle conception de la science est mise en œuvre dans ces débats et dans ces travaux. Il faut dépasser une conception un peu, je dirais, naïve, qui est celle d'une science dont l'objet serait d'établir des lois universelles. Non, la science, c'est quoi ? C'est comme l'a très bien expliqué Dany Rodrigue, c'est une autre référence pour les étudiants à lire absolument dans un ouvrage récent. C'est d'établir d'abord des modèles et d'établir un menu de modèles et ensuite d'essayer, grâce à des techniques empiriques de plus en plus sophistiquées, puis donnant lieu aussi à des innovations, à de l'imagination, d'essayer de déterminer lequel modèle est le plus pertinent dans un contexte donné ou par rapport à une population donnée, etc. Et je crois que ces débats sur le SMIC, on apprend beaucoup, même si la question reste ouverte, évidemment. Ça n'a pas de sens de vouloir lui donner une réponse dans un sens ou dans l'autre. Mais tous ces travaux économiques nous ont beaucoup appris, justement, sur les mécanismes de fonctionnement du marché du travail et pourquoi, dans tel pays, l'effet du salaire minimum n'est pas forcément négatif. Dans d'autres pays, on peut craindre, au contraire, des effets plus négatifs sur l'emploi. Et donc, ça, je crois que c'est un apport très important de la science économique, qui, à la fois, peut être fière, mais doit rester modeste. hein, puisque ce qui la guette parfois, c'est un peu l'hybris, le manque de modestie et le scientisme, hein, et qui fait penser à parfois que l'on a la réponse définitive. Or, justement, ces 100 ans ou plus de 100 ans d'histoire des débats sur le salaire minimum montrent que les choses sont toujours plus complexes et qu'il y a toujours beaucoup à dire sur cette question. Merci beaucoup. Merci. Thank you.